Profil PM. Opinion. Voici Fred Savard.
Je regarde danser les Black Label sur une vieille tonne de Dénichon. Je vous remercie bien pour la grosse bière. J'ai eu ben du fun à Jonquière.
Alors, c'est l'heure de la chronique à Frédéric.
Oui.
Et qui vient nous annoncer que la palme de la grande buvance a de l'air à revenir encore au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est dommage, il y a 25 ans, moi, j'aurais fait gagner Montréal n'importe quand.
Oui, ben en fait, c'est mitigé. En fait, ils boivent moins. En fait, ils boivent moins souvent, mais plus à chaque fois. En fait, c'est une vaste enquête réalisée par Crop pour le compte d'Éducalcool. Là, ce qui a été publié, c'est ils vont région par région, mais c'est une enquête qui concerne tout le Québec, 6732 répondants. Et dans l'article, c'est dans le quotidien du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a des données quand même pour tout le Québec, parce que je pense que c'est intéressant. Bon, nous, on est dans l'équipe des gens qui ne...
Oui, mais moi, je t'annonce que les grèves à la SAC ont commencé quand j'ai arrêté de boire il y a 25 ans.
J'imagine.
Je suis certain que c'est à cause de moi.
J'imagine. Donc, 85% des Québécois ont bu de l'alcool au cours des 12 derniers mois. On tombe pas en bas de notre chaise. Mais je me demande si c'est même pas plus que ça. Ça me semble... Parce que sinon, ouais, dans le 15%, il y a moi, il y a toi, Jean Lapointe. 82% préfèrent boire à la maison. Ça, c'est peut-être une petite cloche pour les propriétaires de bars, entre autres. On sait qu'à Québec, entre autres, il y a eu plusieurs bars qui ont fermé les dernières années et les propriétaires, j'avais vu ça dans un reportage qui disait, ben c'est ça, les gens, entre autres les jeunes, préfèrent boire à la maison que...
Alors moi, je pense que les réseaux sociaux ont remplacé une forme d'interaction qu'il y avait dans les bars, ça se pourrait ça.
34% de la population affirme avoir dépassé les limites recommandées par Éducalcool. Ça, on parle de 3 consommations pour une femme et 4 pour les hommes lors d'une même occasion, ce que médicalement on considère comme une intoxication à l'alcool. Donc 34%. Moi, je pense que c'est plus que ça parce que dans ce genre de sondage, souvent les gens ne disent pas toujours la vérité. Hein. C'est comme la fréquence des relations sexuelles, c'est toujours plus dans un sondage que dans la vraie vie.
Ouais, surtout pour les gens.
Ouais, c'est ça. Les gens font de la projection. 55% disent avoir bu plus de 5 verres en un même soir. Là, ça commence à être costaud comme soirée. Évidemment, tout dépendant du gabarit.
Puis la vitesse.
Oui, tout à fait. Alcool au volant, 51% des Québécois affirment avoir conduit après avoir consommé de l'alcool à l'intérieur des limites permises et 8% disent avoir consommé plus que la limite. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a deux ans... Puis il y a deux ans, mais ça, c'est vraiment particulier, cette notion-là de se dire, est-ce que je dépasse la limite ou non? C'est très difficile à savoir quand t'es dans un bar ou à la maison parce que si t'as pas l'appareil...
Les dernières années, je travaillais dans les bars, ils me mettaient des machines.
Oui, mais il paraît qu'ils sont plus ou moins précis.
Plus ou moins
Moi, j'ai eu la chance avec l'émission Cordes sensibles à Radio-Canada il y a deux ans de faire à l'hôpital Douglas, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. Comment aider les récidivistes de l'alcool à se sentir inaptes à conduire? Parce que c'est souvent ça le problème. Ces gens-là ne se sentent pas dépassant la limite, fait qu'ils prennent leur voiture. Et ils nous avaient fait boire d'alcool pendant une demi-heure. Et après ça, on passait un test de conduite.
Tu t'es prêté à l'expérience.
Je m'étais prêté quelques mois avant d'arrêter.
De remonter le taux de sang dans ton alcool.
Ouais. Et en conduisant, et moi, je sentais que je pétais la balloune. Il nous mesurait à chaque 5 minutes avec un...
Puis tu l'as senti à partir de quand?
Assez rapidement. Et je ne la pétais pas du tout. J'ai passé une simulation sur un ordinateur avec un volant. J'ai fait plein d'infractions. Mais moi, j'étais sûr que je dépassais. J'étais à 0.06.
Ah oui.
Et là, les chercheurs disaient qu'au Québec, entre autres, on est l'endroit au monde où la tolérance est la plus grande envers l'alcool. Puis eux, en tout cas, étaient d'avis qu'on devrait abaisser ça parce qu'on est dangereux. À 0.5, à 0.6, on est dangereux sur une route. Et cela dit, un policier peut nous arrêter quand même si on dépasse pas le 0.08.
Ben,
si on
est en conduite dangereuse,
c'est exactement. Exactement. Donc, sondage intéressant. L'étude le démontre, en fait. 27% des Québécois, 26% en fait, disent avoir dans leur vie, dans la dernière année, traversé un barrage routier. Seulement 26%. Et là, l'étude prétendait que ce serait peut-être intéressant qu'il y en ait plus, parce que si on passe un barrage routier, souvent c'est extrêmement épeurant. Et là, ça tresse cette espèce de crainte-là de « il va-t-il avoir des barrages ?» Et moi, j'ai 48 ans, et pour la première fois de ma vie, il y a, au mois de juin, j'ai eu la chance de passer dans un barrage et je l'ai dit au policier, monsieur, ça fait presque 2 ans. J'étais très content, en fait, parce que j'étais
c'est
sûr.
C'est ce qu'on souhaite, hein. Parti là, on ne boit plus, on mais cherche vrai, le barrage. Je veux pouvoir le dire une fois. Ouais. Enfin, moi, souffler. Ouais. Je veux que ça marque zéro.
Mais l'étude démontrait que.
Je l'ai demandé, puis ils n'ont pas voulu me faire souffler. C'est pas fin.
Mais l'étude démontrait que s'il y avait plus de barrages, peut-être que les gens feraient plus attention, mm-hmm. parce qu'ils auraient peur, évidemment, de se faire prendre. Donc, étude intéressante. Moi, je pense qu'il faut mettre plusieurs chiffres à la hausse.
T'as un casier criminel, tu perds ton permis un an, puis maintenant, tu l'as moins facilement. Il y a plus de tests qu'avant. Maintenant, tu passes une évaluation psychologique, ils peuvent te le refuser. Ça peut durer longtemps, cette affaire-là. Ah. Alors, c'est pas évident de perdre son permis. Les gens feraient plus attention si effectivement ils voyaient une coupe de cerises de plus qui.
Visiblement, en tout cas, c'est ce que le tout. Et là, je pense qu'ils vont la publier parce que là, c'est des informations parcellaires dans le texte du quotidien, mais je pense que ça va être publié dans les grands médias. Puis il y aura peut-être d'autres données parce que c'est la plus grande étude que Éducalcool fait avec CROP sur la consommation d'alcool.
Oui, mais toi, tu vulgarises mieux. Ça passe par toi. Oui, Frédéric.
T'es bien fin, Daniel. Chose aussi qui, au-delà des barrages routiers qui peuvent...
On n'en sortira jamais. C'est important.
Au-delà des barrages routiers qui peuvent compliquer la conduite, il y a bien sûr les chantiers à Montréal. Et hier, je voulais en parler, mais j'ai pas eu le temps. Je me suis pété la gueule cette semaine.
Ben oui,
vélo.
J'ai vu ça.
Oui.
Et là, je vois tes blessures, puis tu connais mon grand sens de la compassion. Oui. J'ai envie de donner des pichenottes dessus.
Oui, ils sont pas si pires, mais quand même.
Mais t'as pas le temps. Mais d'après moi, c'est parce que c'est coup de genou, mais t'as piqué une sérieuse fouille en blessure.
Pas sérieuse, mais assez bonne. Mais je veux taire la rumeur, je ne suis pas celui qui a fracassé un pare-brise d'autobus de la STM avec son cadenas de vélo. C'est arrivé, on l'apprenait ce matin, en fait. Et la personne dit, c'est parce que j'étais un petit peu impatient. J'étais en contresens sur Notre-Dame. J'évitais les chantiers. Et là, cette semaine, on apprenait qu'à Montréal, il est impossible de savoir le nombre de chantiers totaux qui sont qui ont cours. Parce que la ville n'a pas d'outils pour renseigner les gens globalement sur combien il y a de chantiers.
Ça va te sembler farfelu, compter les cônes d'orange. Puis je vais te dire comment, c'est parce que les cônes d'orange ne sont pas achetés par la ville, ils sont loués.
Mais compter les cônes d'orange, Daniel, je pense pas être capable de me rendre au milliard.
On peut faire une moyenne, d'après moi. Ça nous est... Parce que là, on a zéro information.
Ben, c'est ça qui... En fait...
Donc, on serait un petit peu plus proche. Parce que c'est ils les ont sur location. Je pense que c'est 1$ par jour par cône orange. Fait qu'on paye déjà une maudite fortune.
Ben oui. Ben oui.
Les taxpayers, on paye ça très, très, très cher. Puis je pense que ça nous donnerait une idée de l'ampleur.
Mais en fait, la ville tient un registre des travaux sous sa responsabilité. Donc, travaux publics, ces trucs-là, ça, oui, il y a des chiffres, on peut le savoir. Mais les chantiers de l'entreprise privée, ça, la ville n'a pas d'outils pour renseigner les citoyens. Il y a un journaliste de la presse qui a essayé de le faire, puis on lui a dit, va cogner à la porte de chaque arrondissement, puis ils vont peut-être pouvoir t'aider. Mais est-ce qu'un citoyen pourrait faire ça? Juste pour avoir une idée. Parce que moi, je trouve que, et je le vois en tant que piéton et cycliste, moi, je suis pas le plus grand cycliste, mais cette année, moi, je ne vesse pas, et sinon, je suis comme une auto. Mais avant, avec la Vespa, ça allait bien d'éviter certains chantiers. Mmh. Ah, bon. Et là, c'est même plus possible. Il y en a tellement que le vélo reste, et la marche quasiment, reste les deux moyens les plus rapides pour se rendre d'un point A au point B. Mais moi, je trouve, entre autres, cette année, qu'il y a une espèce de laisser-aller sur la gestion des trottoirs et de comment on aménage, dans le fond. Parce que souvent, et je le vois avec l'entreprise privée, c'est qu'il y a des brouettes qui traverse une piste cyclable. On laisse ça négligemment. C'est vraiment dangereux. Et visiblement, la ville, si elle n'a pas de registre, et là, je pose des questions, mais si elle n'a pas de registre, comment elle fait pour sanctionner? C'est parce que j'imagine qu'il y a des règlements.
Quelqu'un qui veut occuper de l'espace public, je parle pas de faire des rénovations dans son salon, là, mais si il prend un bout de trottoir ou quoi que ce soit, j'en ai déjà fait, il faut vraiment que tu demandes un permis. Là.
Ben moi, j'ai
ils peuvent compter leur permis. D'après moi, ça se fait là.
Mais j'espère qu'ils doivent le faire, parce que moi, on m'a dit que non. Et maintenant, la ville appartient aux... Moi, il y a quelqu'un qui est à la... Fonction publique au Québec qui m'a dit ça récemment. Je sais pas si c'est véridique, mais il m'a dit non, à Montréal, là, c'est le free-for-all, en fait. C'est que les entrepreneurs peuvent à peu près faire ce qu'ils veulent. J'aimerais vérifier cette information, si des gens ont l'information.
J'ai rénové à Montréal, je fais absolument pas faire ce que je voulais, puis les inspecteurs passaient, puis ils checkaient.
Mais, les inspecteurs surveillaient quoi? La conformité du permis de rénovation ou le fait que...
Je refaisais la façade chez moi en avant.
De la maison.
De la maison.
C'est de ton...
Non, ça, il y a des causes désespérées. J'ai accepté comme ça. Ils me donnent jamais comme comédien le rôle de la petite comédie de l'été. J'ai pas ça.
Ça m'étonne, ça, Daniel.
J'ai un mugshot ambulant. Il me manque juste la photo de profil. C'est tout. J'ai accepté ça. Je vis ça avec ça. Non, mais c'était là, de tout. On avait 6 appartements en tout. C'était moi qui étais en charge de ça. Mais t'as des critères très, très, très. Faut que tu fasses avec ton environnement. Puis la place que tu prends sur le trottoir. Et non seulement ça, quand le camion arrive pour débarquer du stock, ça te prend des permis même pour ça.
Okay.
Alors, j'ai de la misère à concevoir qu'on puisse laisser traîner une brouette.
Parce que moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, puis souvent, c'est la ville qui doit nettoyer quand l'entreprise privée s'en va. Ils n'ont même pas d'obligation de remettre le site public, en fait, là, du domaine public. Mais c'est à vérifier. Là. Moi, c'est ce qu'on m'a dit récemment.
À nos rapports avec les mines, ça, un peu.
Ouais. Mais là, mais je trouve quand même que souvent on arrive sur une rue et c'est marqué trottoir barré, aller de l'autre côté, il n'y a pas de cône. On ne réfléchit pas. Puis tu sais, pour avoir voyagé un petit peu, j'ai déjà vu des gros travaux à Londres il y a quelques années où il y avait des corridors vraiment bien aménagés pour les piétons. Puis je sais qu'il y a certaines améliorations ici qui se font de plus en plus, mais je trouve que cet été, entre autres, il y a vraiment quelque chose d'anarchique dans la façon de gérer les chantiers. Et je termine avec ce militant de la campagne Québec Vie. Mm-hmm. Les médias sociaux en parlent beaucoup. Là, ben, le film de Unplanned de M. Goudzou, on a eu certains chiffres.
M. Goudzou, c'est pas lui qui l'a écrit pareil, là, mais il a accepté le
distribuer. Mais je sais pas, il produit des films maintenant, lui. Il a fait Papa est devenu un lutin de Noël, je pense que c'est lui qui avait produit.
Mais je sais qu'en tout cas...
Tu ris comme ça, Daniel?
Ben, c'est parce que ça m'est apparu un statement, son affaire, beaucoup plus qu'un film de Noël. Là.
Oui, c'est pas tout à fait un film de Noël, on doit se dire.
Non, mais c'est un film plein de mensonges. À un moment donné, il faut que tu l'assumes quand tu décides.
Il l'a dit ici en nombre, il y a un agenda derrière ça. Lui, il ne croit pas. En tout cas, il veut remettre un peu, je pense, la discussion sur le droit à l'avortement. Et quand tu présentes un film comme ça... Sauf que là, on a eu certains chiffres. 18e rang au box-office québécois, 11 500 $ de recettes. Ça veut dire à peu près 1000 personnes qui y vont le mardi, à peu près 900 personnes. Donc, beaucoup de chroniqueurs et chroniqueuses qui sont allés le voir pour après ça faire un texte pour dire que c'était pas bon. Ouais, que c'était pas bon.
Ou des gens... Mais tu sais, il y a des gens qui... C'est pas pour convaincre, hein, c'est juste faire plaisir. Parce qu'il y a des gens qui veulent pas se renseigner. Ils veulent juste avoir les renseignements qui confortent leur opinion qu'ils ont déjà.
Mais tu sais, je comprends...
Ça les rassure. C'est des films comme ça, ça.
Oui, mais je comprends les craintes des gens. Mais tu sais, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens qui s'inquiètent qu'un film comme ça soit présenté parce que là, ça va remettre le
tapage été d'un média, pas d'un salle de cinéma.
Ben voilà. Puis là, je pense qu'il faut les entendre, ces gens-là. Puis là, il y a un militant pro-vie, là, M. Goudzou, il a dit, parce qu'il était à l'intérieur du cinéma, puis il remettait des dépliants pour dire aux... en fait, il ramassait des dons, parce que c'est un organisme chrétien. Puis on sait qu'au Québec, malgré la loi 21, les organismes peuvent encore demander des dons pour des causes comme ça.
Je rappelle qu'il ne paye pas d'impôts là-dessus.
En plus, bon, voilà. Et là, M. Goudzou a dit qu'il ne va plus être à l'intérieur des cinémas pendant la projection. Il pourra le faire à l'extérieur, parce qu'il y a eu des militants pro-choix également qui ont remis des dépliants.
Mais à l'extérieur, il n'y a pas de contrôle, c'est pas chez eux. Là,
c'est ça. Parce que l'un des dépliants, là, c'était vraiment... On faisait des amalgames sur la dépénalisation de l'euthanasie, sur le suicide assisté, sur le fait que, dans le fond, les médecins, parce que le système de santé est inefficace, poussent les gens vers la mort. Puis, tu sais, y a plein d'amalgames. Puis, moi, je pense qu'il faut les entendre, ces gens-là. Arrêter d'essayer de les faire taire parce que ça heurte nos convictions. Je pense pas que le droit à l'avortement est vraiment en question au Québec. Il y a des gens qui sont pas d'accord. Il y a des gens qui font des bon.
Il y a une grosse montée aux États-Unis. Oui, puis, on a peur que ça se rende ici parce que généralement, on fait comme les États-Unis 10 ans après.
C'est parce qu'aux États-Unis, il y a tout l'aspect religieux aussi qui est beaucoup plus présent, je pense. En tout cas, dans les États du Sud, entre autres. Alors qu'ici, heureusement, on essaie de circonscrire la religion dans la sphère privée.
Mais moi, je pense qu'il faut qu'il y ait absolument le droit de s'exprimer comme tout le monde, mais faut qu'on ait le droit de critiquer.
Exactement.
Il y en a beaucoup qui mélangent beaucoup censure et critique. Moi, je critique, mais j'empêche personne de parler.
Voilà. Alors, je pense que c'est important de les entendre parce que plus on va les entendre, plus on va pouvoir démonter ces arguments-là. Et il y a 30 ans aujourd'hui, c'est drôle qu'on parle de ça parce qu'il y a 30 ans, c'était la saga Chantal Daigle et Jean-Guy Tremblay. On a commencé avec Plume la Traverse. Et moi, il y a 30 ans, j'achetais l'album Chansons pour toutes sortes de monde de Plume la Traverse où il y avait une chanson qui parlait de ça. C'est un des premiers spectacles que j'allais voir seul au Festival du Poulet à Wickham. Je restais à Drummondville dans ce temps-là. Mais un des meilleurs shows que j'ai vu.
Tu te tenais dans des places à V, là.
3 heures de spectacle. La première partie, c'était du monologue de Plume. Et la deuxième partie, il enfilait les succès. Souvenirs incroyables. Alors, on se laisse avec cette chanson, la balade de Sandal et Gandhi, qui est un clin d'œil à cette polémique entre Chantal Daigle et son conjoint Jean-Guy Tremblay.
Merci beaucoup. Il voulait pas lâcher, a pris un avocat pour pouvoir y régler son cas. C'est la balade.
de sandales et cordies.